vinyle sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde. Sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde. Sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde.
Brasero. Brassage radio.
Bonsoir. Alors parce que la dernière fois, on a beaucoup ri, et vu le contexte un peu morose, on a décidé de remettre ça et de refaire une émission sur le rire.
Sérieux? Ah ouais, genre, on va refaire la même émission parce qu'elle était drôle, comique de répétition en fait, c'est ça?
Mais non, c'est avec des trucs différents.
D'accord, ok, je l'ai. Ouais, on va rigoler mais avec d'autres sons, c'est ça?
Bah oui, c'est ça, tu l'as pas préparé, t'étais où?
Moi j'étais à Marseille et c'était trop bien, on a rigolé, les gens ils étaient détendus, on a fait le carnaval.
Ah ouais? Ah cool! Mais tu sais quoi, nous aussi on va parler du carnaval.
De rien?
Bah non, de Toulouse.
D'accord, et y aura d'autres choses ou?
Bah oui, tu verras, il y a un conte, il y a une enquête internationale, il y a des analyses de films.
Ah, trop bien, est-ce qu'il y aura des vidéos de chats, tu sais, quand ils sont tout mignons là, quand, par exemple, il y en a, ils chutent, ils sont devant de la fenêtre.
Non, mais filmés. attends.
Ah, j'adore, quoi, c'est comme ça.
Non, à la radio, ça passe pas les vidéos de chats.
Ah ouais. Ah ouais, du coup, c'est pas drôle dans l'intro, c'est sûr.
Non. Bon, mais de toute façon, ça marche pas là comme intro, on va enchaîner alors.
Ouais. Bonne écoute.
C'était vraiment un truc.
La crise, le virus, le confinement, le couvre-feu, le travail, le télétravail, des interdictions, des fermetures à tout va.
Ça nous isole.
Ça nous déprime. Et pour beaucoup, ça écorche à vif notre santé mentale. Le carnaval, c'est l'inversion des normes, des règles mornes qui régissent nos vies. C'est remettre des paillettes et des couleurs dans la ville, revivre un moment de liesse populaire pour les petits et les grands. Se réapproprier la rue, l'espace d'un instant, ce qui hier nous paraissait si simple, aujourd'hui si loin. À l'heure où les espaces de liberté ont réduit à la taille de nos appartements, les lieux de rassemblement aux rayons de supermarché, bosser, consommer, ça vous a fatigué? Alors faisons subir à Monsieur Carnaval la vindicte populaire. Car Monsieur Carnaval est de ceux qui nous contraignent. Il pourrait être ton patron, le maire ferme les lieux alternatifs, ton mec jaloux, relou, klaxonne, feu rouge, ton propriétaire te harcèle, les flics qui te dressent en ses verbales, l'assureur qui mise sur tes emmerdes, bref.
C'est marrant parce qu'il y a vraiment plein de gens au balcon, par exemple.
Là. Voilà, il y a des gens de
bah oui. Trop offusqués de voir ces gens sans masque.
Bah, plutôt masqués.
Masqués, ouais.
Bah, pas tout le monde. Vous êtes déguisé en quoi?
bonne question. Déguisé en quelqu'un qui n'est pas rentré chez lui hier soir.
D'accord. Ah, on fait tard. Et ça, c'est vachement rare en ce moment où toutes les fêtes sont clandestines. Franchement, bravo. Bravo, ça fait monde d'avant.
Très monde d'avant.
Ouais, c'est ça. C'est super, quoi. Bravo, quoi. C'est monde d'avant-hier. Genre nuit blanche.
Et tout le monde.
Alors, c'est comment une nuit blanche?
Beaucoup, je pense. C'est comment une nuit blanche? C'est assez éprouvant. Ouais. Surtout le créneau 6h-6h. C'est pas très marrant, je trouve. Enfin, quand on essaie de pas se prendre une amende, en tout cas.
C'est ça.
Parce que ça m'est déjà arrivé personnellement, et c'est pas sympa.
Ouais, c'est ça, c'est le problème.
Ouais, du coup, ça fait quand même des sessions assez longues. Donc voilà.
Faut faire des roulés-boulés sous les voitures, tu fais comment
Bah ouais, j'ai déjà fait des trucs comme ça, ou me cacher dès que je vois une voiture qui arrive au loin. C'est le retour Splinter Cell, quoi, faut se cacher partout. Mais sinon, j'essaie de rester jusqu'au bout, quitte à dormir sur place avec les copains, quoi.
Ah ouais, c'est un
mec. D'accord, mais ça fait plaisir, ça, quand même. Vous êtes plusieurs.
Ah, on est beaucoup.
Ah bah c'est bien, ça.
À pas avoir dormi.
À pas avoir dormi, je sais pas, mais quand même essayer de se rassembler de temps en temps, oui, ça, ouais. C'est quand même beaucoup à pas supporter de rester dans notre coin, juste bosser toute la semaine, ce que je fais aussi, mais après le week-end, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir quand même partager des choses à plusieurs, quoi.
Le carnaval, ça rime à quoi, tout ça?
Le carnaval, ça rime à... Bah, je pense que c'est un peu dans la même veine d'idée, quoi. C'est, tout le monde a envie de se rassembler, de partager un moment festif. Voilà, c'est juste ça, quoi. Pas plus, y a pas beaucoup d'ambition, mais c'est déjà pas mal. Si on arrive à le faire.
C'est super, bah on le fait là.
Ouais.
On est en plein dedans. En tout cas, bravo pour le déguisement du monde d'avant.
Merci.
Le fêtard. Le trace nos chats, on dirait.
Bon après-midi.
Salut.
Ouais, j'avais
des
classes.
On peut rire avec tout.
Non.
Non. On peut rire de tout le monde.
Non, c'est pas ça. Ariella, elle lâche pas.
On peut rire de n'importe quoi, non, mais pas avec n'importe qui.
Non.
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 Tout le monde peut en rire.
Non, c'est on peut avec tout le monde rire, mais tout le monde rit.
Avec tous et toutes.
Non, mais non, c'est on peut rire.
On peut rire.
De tout.
Non, on peut rire.
Ah ouais. Tu peux
non,
plus
on peut, rire. On peut plus rire de tout.
Non. Non, certainement pas avec n'importe qui.
Et pas sur n'importe quoi.
Et pas sur n'importe
et
quoi.
Et pas n'importe quand.
Et pas n'importe quand.
On peut plus rire.
En écoutant Bras Zéro.
Mais avec qui tu ris?
Non.
Avec Bras Zéro.
Mais pas n'importe quand.
Ah oui.
Mais et pas sur n'importe quoi.
De 19h à 20h.
De 19h à 20h plutôt.
Sur Canal Sud.
Le lundi.
Sur Canal Sud, le lundi.
Bon, en Colombie, on rit de quoi? Parfois on rit parce qu'il faut, parce que ça fait partie de notre culture. On rit comme façon de protection aussi contre les situations difficiles. Parfois, même si on a des problèmes, c'est le rire qui nous donne un peu la motivation, qui nous fait dire bon, allez, ça va passer, ça ira. Même si, par exemple, la situation du Covid, notre rire, parfois, se trouve un peu difficile à suivre, mais bon, il faut toujours avoir le rire dans nos visages. Et en Colombie, c'est vrai que parfois, on peut rire avec un inconnu. On peut, par exemple, trouver quelqu'un dans le transport en commun, et à un moment donné, commencer à rire, même si on ne connaît pas forcément cette personne. Donc, je pense que les relations entre les Colombiens ou entre nous, surtout les gens qui viennent de la côte, ma ville par exemple, Barranquilla, on est vraiment plus proche. Et les rires ont bien évidemment plus. On a recours à rire souvent. Donc, par rapport à des blagues en Colombie, bon, j'ai beaucoup de blagues en tête, mais c'est. Il y a, vous savez, c'est les jeux de mots, donc peut-être en français ça va pas passer.
Le rire et l'humour en général fait partie de la culture marocaine parce que on essaye de rire à peu près de tout. On a besoin de rire. Souvent, les gens, quand ils vivent des conditions un peu difficiles, que ce soit socialement, financièrement, etc., on crée des blagues. Et on essaie pas de se moquer de la situation, mais de la rendre plutôt légère, parce que c'est ça l'humour en fait, c'est quand on rit, les choses semblent plus faciles, plus belles, plus joyeuses. Les Marocains en général, ça fait partie de la culture, la nature de rire de tout. On peut rire avec un inconnu, par exemple. On peut être assis à côté de lui dans le bus ou dans la rue. On peut lui sortir une blague et on se met à rire. Et c'est carrément faisable, en fait. Parce que il y a une chose intéressante, par contre, c'est que les Marocains font partie des seuls peuples au monde, en tout cas c'est ce que les gens disent ici, qui font des blagues qui se moquent d'eux-mêmes. C'est-à-dire ils vont faire une blague en disant « il y a eu un Marocain, il y a eu qui a fait ci, qui a fait ça, etc. » On se moque de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On se moque de nous-mêmes parce que on s'autocritique, on se permet de se critiquer à travers les blagues. Et parce qu'on sait qu'il y a plein de choses intéressantes, des phénomènes sociaux, etc., économiques et sociaux qui se passent. Et on fait des blagues. On fait des blagues pour se moquer de nous-mêmes. Donc c'est un côté sérieux, malgré tout. C'est un côté sérieux. Parce que souvent, quand on fait des blagues, c'est souvent sur des sujets très sérieux. D'ailleurs, je me demande si les sujets très sérieux, puisqu'il y a pas mal de tabous dans ce genre de société, eh ben, c'est à travers les blagues. Que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau de notre identité, nos problèmes, nos difficultés, on doit surmonter dans les quotidiens. On n'arrive pas à en parler directement, etc. Parce que voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer, qu'on réprime, qu'on refoule. Mais les blagues, elles sont là pour permettre une émancipation, etc. Les gens qui font rire, c'est des gens qui apprennent les blagues. Parce qu'à l'époque, c'était une culture, voilà, des traditions orales. Et les gens faisait beaucoup, beaucoup d'histoires, de contes, et les blagues font partie de ça.
وهذاك البركاني اللي مشى طلع له الدم مشى للجبل
صافي
كيغوت انا بركاني الجبل كيرد عليه انت بركاني الصاده صعبه براسه وما باعي لا مليون ديال من يربح من
سيربح
جوج عداحي من عيلة
البركاني
لا ما
عرفتش
جا بركاني
يعني وقت
لا يفزي قال في البداية راه كنطلع سؤال بسيط باش تاخذ داك 500 درهم وهي ماشية قالوا لا إله إلا الله وإنا رسول الله
لا
طاهر كان اختيارات لا في اللون ما كانش اختيارات ما بعد قال له دير لي داك لوكاري دار داك هذا دار محمد دار موسى دار ادم ودار عيسى كيف وقيل ادم رسول الله وقيل موسى ما عرفش قال له مازال قال له مازال لك عاوتاني واحد فرصه واحده اخرى تعيط لشي واحد تاعو اللي باخر تو بركاني يقول له واقيلا ادم اخويا ساعه وتزيرات القضيه وبدا كيدير طن طن كيقول له الله قال له لا اله الا الله وان محمد رسول الله دير لا ادم
لا اله الا الله محمد رسول الله
ادم يا غاطي ما في ما
Le rire nerveux. Il se manifeste face à une situation tendue.
Face à une phase de trop, lors d'une discussion, d'un entretien d'embauche.
Un entretien Pôle emploi.
Un repas de famille.
Un contrôle de police.
D'un coup, on ne contrôle pas et le rire sort.
On se décharge. Notre corps nous oblige à s'apaiser. Faut-il le contrôler ?
Le remplacer des fois par une réaction violente ?
parfois dans un moment d'angoisse, de tristesse, de détresse, dans un moment où on a dans le ventre et dans la gorge comme un grand vide, une bouffée d'air inaccessible, un truc qui bloque et qu'on voudrait pourtant bien sortir. Parfois, dans ce moment-là, c'est pas les pleurs qui sortent, c'est le rire, et parfois le fou rire. Moi, un des plus beaux souvenirs de fou rire que j'ai, c'était juste après qu'on m'ait annoncé que ma mère avait une leucémie. Je suis allée passer un peu de temps avec elle, et on s'est retrouvés à faire un jeu de société ensemble. Il n'y avait rien de vraiment comique, mais on est parti dans un grand fou rire, rien que d'y repenser, ça me fait sourire. Quand on a remis nos zygomatiques en place, elle m'a dit « Mais c'est pas permis de rire comme ça alors qu'on vient d'apprendre qu'on a une sale maladie ». Alors je sais pas si c'est parce que c'est plus acceptable de rire que de pleurer devant les autres, je sais pas si c'est parce que c'est trop difficile de pleurer devant d'autres personnes, ou est-ce que ça nous permet de nous redonner un peu d'élan dans un moment difficile. En tout cas, quand elle est morte 3 mois plus tard, je me souviens qu'on a de nouveau eu pas mal de moments de rire avec les frangins et les cousines. Je me souviens même m'être frité au téléphone avec le service obsèques de West France parce qu'ils voulaient pas mettre notre dédicace telle quelle dans les annonces de décès, sous prétexte qu'elle était pas assez sérieuse. Je sais pas, je pense que ça nous donnait de la force en fait. Que ça scellait une alliance complice entre nous pour rester soudés et en vie. Et je trouve que c'est un sacré coup de bol quand même de pouvoir se remémorer des moments de rire en plein milieu d'une histoire qui est pas vraiment comique.
Hello Mr. Zebra, can I have your sweater? Cause it's cold, cold, cold in my hole, hole, hole. Ratatouille, stricken line. Sometimes she's a friend of mine with a gigantic whirlpool that will blow your mind. Hello, Mr. Zebra, ran into some confusion with a Mrs. Crocodile, dial, dial. Furry muscles marching on. She thinks she's Kaiser Wilhelm, a rushable lass in a bulb to blow your mind. She's a good time fella. She got a little fun to fight for money, pennies, rides, figure it out. She's a good time fella. Too bad the burial was premature, she said and smiled.
Brasero, approche-toi du micro.
C'est quoi en fait le clown? Ça veut dire quoi être clown ou faire du clown ou je sais pas comment on dit du coup?
Ce qui se retrouve toujours dans le clown, c'est cette idée qu'on va rentrer sur scène avec un immense désir de réaliser une action et il va nous arriver des accidents par rapport à ce grand désir-là. Et le personnage, ça va le servir parce qu'on va écrire un spectacle de clown en montant comme ça une succession de buts à atteindre qui vont être entravés par des... voilà, des obstacles divers et variés. Donc moi, je dirais que ça, c'est que le clown, c'est un personnage qui a un immense désir et qui rencontre plein d'obstacles qui vont susciter le rire dans cette quête-là.
Mais du coup, on se moque un peu de la difficulté qu'a le personnage à atteindre son but, quoi.
Ouais, mais je crois qu'on se moque. Enfin, en fait, plus l'enthousiasme est grand, et plus la chute est grande, plus on va rire. C'est-à-dire qu'on va rire d'un personnage qui part avec tout son élan, qui part avec tout son élan ramasser cette balle qui est tombée par terre. Et sur ce chemin-là, il va se vautrer. Et ça va nous faire rire parce qu'il va y avoir un contraste entre l'enthousiasme et puis l'événement. Mais par contre, si on voit quelqu'un qui arrive épuisé ou que c'est une vieille dame et qu'elle tombe, ça va pas nous faire rire parce qu'il n'y a pas eu d'enthousiasme à la base, parce que la personne s'est réellement fait mal. On rit pas de la douleur, je pense qu'on rit vraiment du contraste entre l'élan et la chute.
Et tu as fait un spectacle qui s'appelle La Reine des Pommes, que tu joues plus depuis un petit moment. mais que moi et qui moi m'avait pas mal plu. Enfin ouais, moi j'avais bien aimé. Et est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur quels étaient les ressorts justement de ce spectacle-là ?
Ben, j'avais inventé la fable suivante. Enfin, cette histoire, c'était l'histoire d'une ouvrière qui travaillait dans la compote et qui s'était faite licencier parce que elle rêvait à des tas d'histoires au lieu de travailler, quoi. Donc du coup, c'était pas une ouvrière rentable. Et du coup, ce personnage-là, c'était un clown parce que il digressait tout le temps par rapport au travail qu'il avait à faire et au lieu d'éplucher toutes les pommes qu'il avait épluchées pour faire un max de compote, elle se mettait à penser à Guillaume Tell ou à Blanche-Neige ou à plein d'histoires de contes et en fait de pommes. Et du coup, le spectacle était construit comme des digressions successives de contes autour de la pomme, portées par un personnage de clown, dans le sens où il était inadapté. Il y a toujours ce côté inadapté à ce qu'on attend de lui. En fait, le clown, il va être dans la subversion, mais de manière naïve. Il va pas dire le patron, c'est vraiment un salaud. Ou, il va dire moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais ça n'a pas marché parce que ma logique à moi, elle est inadaptée par rapport à ce qu'on attend de moi. Donc en fait, la subversion, elle vient d'un regard naïf sur les choses qui quand même on finit par renverser le pouvoir au final. C'est comme dans le duo de clown Auguste clown blanc, il y a le clown blanc qui incarne l'autorité et l'Auguste qui incarne celui qui va renverser l'autorité, mais il va pas la renverser volontairement, il va la renverser parce qu'il obéit à une autre logique que ce qu'on attend de lui, mais pas tandis qu'on, par exemple, on compare souvent le clown et le bouffon, et le bouffon c'est les sorciers, c'est le cynisme, c'est celui qui va regarder les gens, comme les sorcières dans les pièces de Shakespeare, et qui se moquent d'eux, et qui se moquent du pouvoir, et qui se moquent de. Mais le clown, il se met pas en dehors, il vit le truc à fond, et comme il n'y arrive pas, et ben du coup, il nous fait quand même réfléchir aux questions de normes établies et remet ça en question. Ouais, il y a vraiment une histoire de philosophie de la remise en question de la norme à travers la naïveté du clown.
Et est-ce que tu as déjà joué, toi, par exemple, ce spectacle dans une usine d'ouvrières qui doivent éplucher des pommes à la chaîne ?
Ben non, ça s'est pas produit dans une usine. Le seul endroit où je l'ai joué, où ça s'est le plus rapproché, c'était je l'ai joué devant des anciennes femmes mineures, enfin qui travaillaient à la mine.
Ouais.
Et du coup, qui n'y travaillaient plus, qui avaient monté toute une association et qui ont vu ce spectacle et qui avaient particulièrement aimé. Enfin, je me souviens que c'était une super belle représentation parce que je pense que, même si c'était pas l'usine de pommes, c'était le travail à la mine avec aussi cette histoire de hiérarchie, tout quelque chose de très normé et puis en même temps qui fait mal. Qui exploitait quand même pas mal les gens et du coup je me souviens que ces femmes-là avaient quand même particulièrement rigolé à la reine des pommes, quoi.
Elles ont pas senti un truc de moquerie, d'humiliation, un truc comme ça ?
Non, pas du tout parce qu'on se moque pas du clown, enfin je crois pas que le spectateur extérieur il se moque pas, je pense qu'il est touché, le clown il suscite un sentiment d'empathie et du coup après le public épouse son regard et puis du coup se dit mais c'est vrai ça, pourquoi on supporterait ça, pourquoi ce petit chef là il nous parle comme ça, pourquoi. Donc non pas du tout, j'avais plus senti une histoire d'identification que de mais je pense que c'est propre à faire réfléchir sur l'absurdité de certaines normes établies. Oui.
En même temps, maintenant, je suis plus embêtée, hein. J'ai plus de banquier, j'ai plus de chef, j'ai plus de travail, j'ai plus de maison. Et puis à ce qui paraît, vu la conjecture actuelle, j'ai bientôt plus de droits non plus. Mais c'est pas grave, Alain. Parce que face à tous les rois des cons, je n'en reste pas moins la reine des pommes.
Rire de sociabilisation.
Procéder de s'insérer à des rites existants lors d'un moment collectif pour lequel on est légèrement en retard. Cela n'implique pas de comprendre la raison des rires, ni même de rire pour de vrai. Le but ici est d'essayer de s'intégrer socialement.
Conseil, n'en abusez pas trop, au risque de passer pour une naze.
Rire de connivence.
Le rire de complicité, ou le rire dit des gros relous, impliquant des intérêts communs, souvent portés par un fond discriminant.
Mais ça peut être aussi
le rire de connivence entre alliés.
Il opère le procédé inverse. Il a pour but de ridiculiser l'oppresseur, de le déstabiliser, de rire contre son oppression, contre ce qu'il est à ce moment. Grosse merde.
Le rire comme une arme contre les dominants, quoi. N'hésitons pas. Le rire nerveux. Il se manifeste face à une situation tendue.
Face à une phase de trop lors d'une discussion ou d'un entretien d'embauche.
Un entretien Pôle emploi.
Un repas de famille.
Un contrôle de police.
D'un coup, on ne contrôle pas et le rire sort.
On se décharge. Notre corps nous oblige à s'apaiser. Faut-il le contrôler?
Le remplacer des fois par une action violente?
J'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscain, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence.
Oui, c'est vrai. Saint-François, parfois, ne répugnait pas à rire.
Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe.
Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme.
Comme le péché.
Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie. Et il en fait un instrument de vérité.
Vous avez lu cet ouvrage?
Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles.
Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités.
Non, là, je ne suis absolument
pas... Assez !
Nous traiterons maintenant de la comédie qui exalte notre art de jouir du ridicule, en usant du vulgaire et en prenant plaisir à cet art.
Mais qu'y a-t-il de si inquiétant dans le rire?
Le rire tue la peur. Et sans la peur, il n'est pas de foi.
Mais vous n'éliminerez pas le rire en éliminant ce livre?
Non, certes. Le rire restera le divertissement des saints. Et qu'adviendra-t-il si à cause de ce livre, l'homme cultivé déclarait tolérable que l'on rit de tout? Le monde retomberait dans le chaos. Ainsi donc, je scelle ce qui ne devait pas être dit.
Nombre d'autres pays traversent ce mal-vivre qui est le nôtre. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux pour l'anarchie.
Parce que je...
Lui tourner. Mettre le monde à l'envers pour le remettre à l'endroit où, au moins pour un instant seulement, se moquer des puissants. On fait cracher la vérité par la voix de la parodie. On peut dire plus de choses sur le ton de l'humour. Quand j'étais petit, il y avait chez moi un livre. Le communisme est-il soluble dans l'alcool? Il reprenait des blagues qui circulaient supposément de l'autre côté du rideau de fer.
À Prague, pendant l'occupation soviétique, un homme se rend au commissariat pour un dépôt de plainte. Devant l'officier, il déclare « Un soldat suisse m'a volé ma montre russe ». L'officier sceptique lui demande « Ce ne serait pas plutôt le contraire ?»« Ah, ça, c'est vous qui le dites », répond l'homme. « Pourquoi le capitalisme est au bord du gouffre ? Parce qu'il regarde le communisme qui est au fond. »
C'est peut-être un ressort universel que de se moquer de ce qui nous écrase. Peut-être parce que ça permet de faire courir une voix dissidente. Peut-être aussi parce que ça a l'effet immédiat de desserrer l'étau dans un fou rire. Dans une explosion de joie, se sentir un peu libéré des tensions, de la pression, de l'oppression. Peut-être que c'est aussi une thérapie pour accepter.
pour faire passer la pilule. Quand on est au boulot, ce qui nous fait passer la journée, c'est parfois l'ambiance. On travaille dur, mais on se marre bien. Le carnaval n'a lieu qu'une fois par an. Il est soupape plus que préparation à la révolution. Mais on a peut-être autant besoin de ça que d'eau et de nourriture. Ne dit-on pas que si on a les rieurs de notre côté, c'est gagné ? La force du rire qui soude et qui renverse est bien réelle pour le meilleur et pour le pire. Les tristes cires, les pisses froids, les rabat-joies sont autant de limites, de carcans étouffants. Un révolutionnaire italien disait que la joie, même si elle n'est pas directement prise avec un projet de transformation du monde, prépare plus à ça que toutes les mortifications militantes dénuées de joie.
Vive l'anarchie.
C'est l'état d'urgence qui menace les libertés aujourd'hui. Ce n'est pas le terrorisme, je le répète. L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République, la force de nos valeurs, nos forces de police et de gendarmerie, notre administration. Je tiens à leur rendre ici hommage, en plus du courage, de la lucidité et du discernement dont les forces de sécurité intérieure font preuve tous les jours pour assurer la sécurité des policiers et des gendarmes, en exposant la vie souvent des Français.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous trois qui rira aura une tapette.
Eh hey, mais vous êtes hyper homophobe en fait. C'est chaud.
Quand la vallée de la paix est menacée, Po, le panda paresseux, découvre qu'il est l'élu et doit s'entraîner pour devenir un champion de kung-fu et embrasser sa destinée.
Donc voilà, on est bien en train de parler du dessin animé Kung Fu Panda que beaucoup, beaucoup de personnes ont vu et d'ailleurs qui souvent ont bien aimé. Et donc là, je suis en présence de quelqu'un qui a quelques critiques à émettre sur l'humour de ces dessins animés.
Effectivement.
Toi, est-ce que tu peux nous dire un peu de manière générale ce qui t'a un peu choqué sur ce dessin animé ?
Ben, moi j'ai vu Kung Fu Panda il n'y a pas longtemps, donc relativement en retard par rapport au monde. Et on m'en a parlé comme étant un dessin animé vraiment bien. Puis le film commençant, Po, donc le panda, le héros du film, est gros. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que le problème majeur de Po, c'est qu'il est gros. Raison pour laquelle il n'est pas capable de faire du kung-fu. Puisque dans la description, on voit qu'il est décrit comme paresseux. Or, dans l'histoire, déjà, il n'est pas particulièrement paresseux. Il y a très peu de blagues qui sont des blagues racontées dans ce dessin animé. C'est que des blagues visuelles. Donc, par exemple, quand il arrive dans le temple où il va s'entraîner, il y a la première session d'entraînement qui pourrait être rigolote. Il essaye plein de choses et en fait il s'en prend dans la tête, tout lui tombe dessus, il casse tout. Mais voilà, c'est que des blagues visuelles et rien de dit comme ça. Les seules phrases qui sont dites, bah, par exemple celle qu'on a écoutée tout à l'heure, c'est quand en fait il est un petit peu méprisé quoi. C'est pas ce gros qui va nous sauver ou.
Maître Ouboy, attendez. Ce gros panda mou ne peut décemment pas être la solution à notre problème. Vous aviez désigné Tigresse et cette chose est venue tomber devant elle. Ce n'était qu'un accident.
Rien n'arrive par accident.
Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment un peu subtil sur l'image, quoi, parce qu'on voit comment il bouge avec son corps, comment il joue avec son corps, et il n'y a rien de très explicite.
Mais du coup, tous les traits comiques, ils sont axés sur son corps.
Ouais.
Pas sur ce qu'il va dire. Ou...
Non, non. Et pour le coup, c'est pas un personnage qui est représenté comme drôle. Il est quand même combatif, il est quand même... Et il a beaucoup d'autodérision, certes, mais il est pas... Ouais, c'est pas sa particularité d'être drôle, quoi. C'est aussi qu'il encaisse bien. Toutes les moqueries, tout ça, il les encaisse bien. Il se laisse pas abattre. Il dit qu'il s'en fout, qu'il va y arriver. Parce que quand même, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Po, son rêve, c'est de faire du kung-fu, qu'il arrive pas là par hasard, et qu'en fait, tout au début du film, il essaye d'en parler à son père en lui disant... Ah, j'ai fait un rêve. Il lui dit, ah bah t'as rêvé de quoi? Et Po, il ose même pas lui dire qu'il a rêvé qu'il allait être maître kung-fu, parce qu'en fait, il sait que tout le monde va lui dire, ah vas-y, arrête avec tes histoires.
À quoi tu jouais? C'était quoi ce ramdam?
Non, rien, j'ai juste fait un drôle de rêve.
Quel genre?
Hein?
De quoi tu as rêvé?
De quoi j'ai... j'ai rêvé, comment dire... De nouilles.
De nouilles? Tu as réellement rêvé de nouilles?
Ouais. Merci. De quoi tu veux que je rêve autrement?
Effectivement, Po, il correspond pas à un élève idéal de kung-fu, puisque c'est pas quelqu'un qui est sportif, il est gros. Que les autres, ouais, c'est vraiment des athlètes, quoi. Il y a une tigresse, donc qui est représentée aussi par, avec sa musculature, tout ça. Il y a un serpent, donc lui, il est fin, il est habile. Po, il n'est pas présenté comme étant ni habile, ni fin, ni musclé, mais plutôt comme un boulet qui est un peu mal à l'aise dans son corps et qui ne sait pas trop quoi en faire.
En fait, c'est un personnage qui est drôle malgré lui.
Ouais.
Et ça, peut-être, c'est un ressort aussi qu'on peut trouver.
Des gros, ouais.
Oui.
Pas que dans les films. Hein.
Ouais.
Dans la vie aussi, quoi.
On va mettre un autre extrait que toi t'as choisi particulièrement, dans lequel il n'y a pas énormément de discussion, mais où le maître kung-fu rentre dans la cuisine, voilà, et vous pouvez entendre Po qui fait du kung-fu, mais pour manger des gâteaux. La cuisine est sans dessus dessous, il a à peu près tout défoncé.
Il a tout défoncé, ouais, pour manger. Et donc...
Voilà! Quand je suis contrarié, je mange, voilà!
Oh, inutile de te justifier. Je croyais tomber sur singe. Il cache ses gâteaux aux amandes sur l'étagère du haut.
Le Po se fait surprendre. Il lui dit que, en fait, la nourriture, c'est un moyen de se réconforter, quand même. Et on peut lire en filigrane que Po fait des crises de boulimie quand même, qui est du coup là un petit peu moqué dans le film. Et en fait, quand il est en hauteur et qu'il vient d'aller chercher des biscuits après que le maître kung-fu veuille le tester, le maître kung-fu le regarde un peu surpris et Po lui dit quoi ? Oui, je sais, je suis dégoûtant, je te dégoûte. Et donc ce qui montre quand même que tout le long du film, Po, c'est pas quelqu'un qui a une grande estime de lui, puisque on se fout de sa gueule en permanence, on lui dit qu'il est gros, qu'il est pas capable. Et voilà.
On le dépasse, hein.
Regarde-toi.
Oui, je sais, je me dégoûte.
Non, c'est pas ça. Comment as-tu atterri là-haut?
J'en sais rien, peut-être... Je sais pas, mais je... Bah, pour ça...
Et donc, te voilà perché à 3 mètres du sol, en parfait grand écart.
Non, ça? Mais non, ça c'est un... accident.
Rien n'arrive par accident. Viens avec moi.
Donc voilà, la peau pour accéder à la nourriture a fait des prouesses et des exploits dignes d'un maître kung-fu finalement.
Exactement, il a fait des cabrioles.
Et du coup par la suite, ça va avoir des incidences sur...
Ça va avoir des incidences sur la suite du film, puisque là, le maître kung-fu vient de réaliser que Po avait de la motivation quand il s'agissait de nourriture. Donc ils partent tous les deux dans la vallée s'entraîner et le maître kung-fu va utiliser de la nourriture pour entraîner Po. Donc par exemple, s'il veut qu'il fasse un double salto, il va mettre un ravioli au bout en lui disant voilà, t'auras pas ce ravioli tant que t'auras pas fait ton double salto, ou alors il va mettre des trucs très en hauteur pour qu'ensuite il se donne les moyens d'arriver tout en haut. Et voilà comment va se passer l'entraînement, toujours avec un peu la nourriture comme appât.
Après toi, Panda.
Quoi, comme ça? Sans faire d'abdos, sans courir des kilomètres entiers?
J'avais juré de t'entraîner, ces choses faites, donc tu es en droit de manger. Régale-toi.
Hé hey!
J'ai dit, tu es en droit de manger, goûte une bouchée.
Hé hey!
Tu es en droit de manger.
Il paraît!
Qu'attends-tu?
Ce film, c'est ce qu'il montre. C'est que tu peux être gros, mais si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Donc c'est aussi pour ça que ce film marche, parce que tout le monde est capable de faire des exploits, de faire des prouesses, etc. Sauf que tout le début du film est quand même axé sur quand t'es gros, t'es un incapable. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour montrer que quand t'es gros, t'étais capable, c'est que c'est la nourriture qui te motive. Ce qui est quand même assez problématique. Et à un moment donné, d'ailleurs, quand ils sont en train de s'entraîner, il y a Po qui... Enfin, il a encore des trucs, des raviolis, des trucs à manger. Et Po réussit ses exploits, nanani, et le maître lui dit « Bah tiens, tu peux manger ça. » Et Po lui dit « Non, j'en veux pas. » Comme de, en fait, finalement, maintenant, j'ai plus besoin de cette motivation. Donc c'est là que le film un peu bascule dans « Oui, on peut tout faire, on peut tout réussir. » Mais ceci dit, quand même, on a une heure de bonne moquerie autour de la grosseur de Po, en fait.
Et toi, tu trouves que ce type d'humour-là, il revient souvent dans la vie, dans des films, dans des dessins animés?
Je sais. Moi, j'ai. Enfin, je sais pas si c'est de l'humour. Je sais pas si c'est drôle, là. Parce que j'ai l'impression que. Alors, par exemple, quand il fait une chute, parce qu'il est trop gros, tout ça, c'est des choses qui vont faire rire les enfants. Effectivement, il y a une chute, parce que voilà, c'est un truc un peu catastrophique. Mais je pense que ça attire aussi l'émotivité chez la personne qui regarde, en fait. Donc, on est touché de quelqu'un qui n'est pas capable, mais qui va y arriver. Ouais, je pense que c'est... ça le représente pas que comme un gros rigolo, mais comme aussi un gros pathétique.
J'ai probablement été plus nul aujourd'hui que n'importe qui dans l'histoire du Kung-Fu, dans l'histoire de la Chine, dans l'histoire des nuls.
Probablement.
Et les cinq, man, vous auriez dû les voir, ils me détestent à mort.
À mort?
Comment Shifu pourrait me transformer, moi, en dragon guerrier? C'est vrai, je suis pas comme les cinq. J'ai pas de griffes, pas d'ailes, pas de venin. Même menthe, il a assez. Machin. Oh, peut-être que je devrais renoncer et retourner faire des nouilles.
Renoncer? Ne pas renoncer. Des nouilles, pas de nouilles. Tu t'en fais trop avec ce qui était et ce qui sera. Comme le dit le proverbe, hier est l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi ça s'appelle le présent.
Les petits contes qui crépitent au coin du Brasero.
Brasero,
raconte.
Raconte.
Brasero, raconte.
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
Eh, Brasero, Brasero,
ça raconte
quoi? Brasero,
Brasero, ça raconte
quoi? Brasero, qu'est-ce que tu racontes?
Mais qu'est-ce que tu racontes, Brasero?
La petite Ondine. Depuis des lustres et des lustres, au fond de l'océan, vivait en harmonie une communauté de sirènes, poissons et crustacés. Gérard le homard, un des habitants de la ville, distribuait des tracts au petit matin du jour de marché, moment où presque tous les habitants étaient regroupés.
Oyez, oyez ! Ce soir au grand auditorium de la mer, Ondine et son One Sirène Show ! Venez voir la sirène la plus drôle de l'océan, vite, les places sont limitées !
Ondine était une petite sirène boute en train. Elle était très heureuse, rigolait tout le temps et faisait toujours marrer la galerie. Elle vivait avec son père, le roi de la mer et ses 5 sœurs. Elle allait avoir 18 ans.
Chez le peuple des sirènes, la tradition veut qu'à l'âge de 18 ans, les sirènes peuvent se rendre à la surface de la mer pour observer le monde extérieur. Alors, le lendemain de son spectacle, le jour de ses 18 ans, Ondine s'en va nager vers la surface.
Quand elle arrive, elle voit le ciel pour la première fois. Il est dans un état de grande colère. Sur la mer, c'est tempête. Au loin, elle aperçoit un navire en péril. Elle avance vers lui et décrypte des inscriptions.
Ce navire s'appelle Total. Oh, le pauvre.
Du pont du bateau, elle voit tomber un jeune homme. Elle se précipite et le sauve de la noyade. Elle le regarde et en tombe fascinée. Elle le ramène sur la plage et disparaît sans se faire voir, comme le veut la loi de l'océan.
À son retour, intriguée par cette rencontre avec un humain pour la première fois, elle pose des questions à sa grand-mère sur les humains et sur ce sentiment doux qui ne la quitte plus. Sa grand-mère lui répond.
« Oh, tu sais, les humains, ma petite, ils vivent moins longtemps que nous et ce sont un peu des bolos. Ils se soucient peu de la nature et même, ils la dégradent. Ils n'ont vraiment aucun intérêt. Ton sentiment passera. »
Les jours passent. Et ce sentiment ne quitte pas Ondine. Chaque jour, elle pense au monde des humains, et notamment au jeune homme du bateau. Il l'intrigue de plus en plus. Elle imagine sa vie, sa voix, ses yeux. Chaque matin, elle se rend près des côtes espérant apercevoir son rescapé. À force d'insister, sa grand-mère finit par lui dire.
« Ma chère petite fille, si vraiment tu veux rejoindre les humains, il faut que tu ailles voir le grand ponte de la terre. Il trouvera une solution à ton problème. »
La grand-mère savait que le ponte de la terre était hostile et prétentieux et pensait que cette rencontre suffirait à faire renoncer Ondine. Mais de son côté, Ondine partit satisfaite en riant d'un rire cristallin qui faisait briller l'océan et les yeux de sa grand-mère.
Dès le lendemain, elle se mit en route pour aller rencontrer le ponte de la terre. Elle finit enfin par le trouver dans une grotte sous-marine près des côtes. Elle lui explique sa situation. Ce à quoi il répond d'une voix ténébreuse.
« Ondine, je peux te donner ce dont tu rêves le plus. Je peux t'offrir un filtre qui te donnera des jambes et te permettra de vivre dans le monde humain pour retrouver ton amour. Mais en échange de ce filtre, il faut que tu me donnes ce que tu as de plus précieux. »
Ce que j'ai de plus précieux, mais je ne sais pas ce que c'est.
Tu le sauras qu'une fois que tu l'auras perdu. Ce filtre fonctionnera pendant 7 lunes. Et si au bout de ces 7 lunes, tu réussis à épouser ton naufragé, tu retrouveras ce que tu as de plus précieux et tu garderas tes jambes. Si tu échoues, tu ne seras plus qu'écume sur la mer.
Très bien, j'accepte.
Ondine, le filtre en main, retourne, euphorique dans sa communauté. Le soir, elle joue une dernière fois son One Siren Show, écrit une lettre à sa grand-mère et au petit matin, au coucher de la lune, au plus près des côtes, elle boit le filtre.
Le filtre passe dans son corps et lui fait terriblement mal. Ses écailles commencent à tomber, sa queue se divise progressivement. On voit de la peau apparaître à l'endroit de ses écailles, des orteils sortir de ses nageoires. C'est la métamorphose. Elle crie de douleur.
Les jambes sont là. Elle se sent différente, un peu vide. Elle peine à nager et s'échoue sur la plage des Catalans. Au moment où elle relève la tête, son rescapé est là. Il se tient devant elle. Il avait entendu les cris de la belle et il s'est précipité jusqu'à elle. Et par un seul regard de sa beauté, il en tombe éperdument amoureux.
Pour briser la glace, elle essaye de faire une blague, mais ne trouve pas les mots. « Je suis trop intimidée », pense-t-elle. Il dit «
Bonjour, je suis Jason.
Elle est à moitié nue. Il enlève sa chemise pour la couvrir, son torse lui. Il la prend dans ses bras et la ramène dans son château.
Les jours qui suivent, il prend soin d'elle. L'aide dans son rétablissement, lui apprend à marcher. Il lui fait découvrir ses amis, son château, sa famille. Et leur histoire d'amour commence. Il est adorable, prévenant, attentionné et beau. Il n'est pas drôle, mais il le deviendra sûrement un jour, espère-t-elle.
Le soir de la deuxième lune, la sœur de Jason, Janet, arrive au château.
Hé, hey, salut les amis, ça va ?
Dans une entrée fracassante. Tout le monde est heureux de la voir arriver. Elle est un peu décalée par rapport au reste de la famille, mais elle est bien drôle et c'est une artiste.
Au repas de famille du soir, Janet enchaîne les blagues et tout le monde rigole. Tout le monde, sauf Ondine. Après le repas, Jason la retrouve en pleurs dans le jardin et lui dit
« T'aurais pu faire un effort, rigoler un peu. T'as tes règles ou quoi ?»
Ondine ne répond pas. C'est la première fois qu'elle voit comme ça. Des rivières coulent sur ses joues. Elle se dit qu'elle ne comprend décidément pas l'humour des humains et que ça freine son amour pour Jason. Ondine a le cœur qui gratte et cette phrase de Jason résonne dans sa tête comme un coup de massue.
Rigoler un peu. T'as tes règles ou quoi ?
Ça l'empêche de dormir.
Le lendemain, elle va dans son bureau pour avoir une discussion et lui sortir sa punchline qui lui a brûlé les lèvres toute la nuit. Mais quand elle arrive, le bureau est vide. Sur la table, une chemise avec écrit en lettres capitales « Confidentiel ». Elle l'ouvre et voit les photos d'un bateau échoué déversant des tonnes de pétrole dans la mer, ainsi qu'un rapport d'incident avec des chiffres et des codes un peu obscurs. Il est écrit en gros « Total ». Elle entend la poignée crisser. À peine eut-elle le temps de fermer la chemise que Jason apparaît.
« Que fais-tu dans mon bureau ?»«
Je voulais te dire que de toute façon... »
Sa phrase ne fonctionne pas. Les mots ne veulent pas sortir. Empreinte de désespoir, elle sort en courant du bureau. Elle dévale les escaliers et tombe littéralement dans les bras de Janet qui lui rétorque.
Bah, Ondine, faut se faire les mollets, ça va ?
Lorsqu'elle aperçoit le visage triste et confus d'Ondine, elle lui dit
« Bon, allez, viens, on va boire un petit remontant. »
C'est ainsi qu'Ondine se retrouve dans l'appartement de Janet. L'endroit est très chaleureux, Ondine se sent bien. Elle trinque et se met à discuter. Ondine lui dit qu'elle se sent seule, que sa grand-mère lui manque, que Jason lui a mal parlé. Janet lui explique que son frère peut être parfois méchant et qu'il manque cruellement d'humour.
C'est un peu un bolos, ça.
Elle discute pendant des heures, puis Ondine rentre le cœur léger chez elle.
Le lendemain matin, alors que nous sommes au début de la troisième lune, Jason arrive avec un bouquet de roses et pour se faire pardonner, la demande en mariage. Ondine est heureuse, soulagée et heureuse, et lui pardonne. Elle propose que leur mariage ait lieu avant la septième lune.
Quelle septième lune ?
Pardon, je voulais dire le 24 août.
Bafouille-t-elle.
Le jour suivant, Ondine réfléchit beaucoup. Elle se dit qu'elle reste attachée à lui, même s'il n'est pas souvent à la maison, qu'il rentre tard le soir. Elle se rend compte qu'elle passe plus de temps avec Janet qu'avec lui. Un nouveau rituel s'installe entre elles. Elles se voient toutes les fins d'après-midi au bord de la plage des Catalans et se racontent des bouts de leur vie. Évidemment, Ondine lui cache qu'elle était sirène dans sa vie d'avant. Janet fait tout le temps des blagues auxquelles Ondine ne rigole pas. Elle ne comprend pas. Elle lui dit qu'avant elle avait un si beau rire et qu'elle faisait rire tout le monde. Janet lui promet qu'un jour, elle la fera rire.
Les jours passent et pendant ces longues journées, elle découvre les joies de la vie sur Terre. Les tartes au chocolat, les balades en forêt, les missions bras zéro, les chaussures et les pantalons, les fourchettes et le sudoku. Janet lui apprend beaucoup de choses, comme par exemple à surfer sur Internet. Quelle découverte !
Un matin, à la fin de la cinquième lune, Ondine se réveille d'un affreux cauchemar, dans lequel elle revoit les lettres confidentielles de la pochette de Jason. Elle se souvient alors des photos, de la fiche technique. Comment avait-elle pu oublier ce moment ? Elle lâche un peu l'organisation du mariage pour se consacrer à ses recherches. elle se rend compte qu'à telle date, Jason était à tel endroit, qui lui a menti sur ses destinations, ses absences, qu'il a telle et telle responsabilité, qu'il est impliqué dans divers naufrages de navires. Elle se rend compte qu'il est actionnaire chez Total et qu'il est responsable de la marée noire qui avait emporté une partie de sa communauté quelques années auparavant.
Quand elle découvre cette information, alors que la sixième lune a débuté, Ondine est prise d'une angoisse aussi immense que l'océan. Elle se sent comme une traître loin de sa famille, bientôt mariée à une des personnes responsables de leur asphyxie sous l'océan. Elle ne peut pas rester ici. Il lui est impossible d'envisager de se marier avec cet homme. Elle préfère encore devenir écume. Elle décide de partir, mais avant de confronter Jason.
Il lui reste peu de temps, si elle veut revoir sa famille une dernière fois, avant la fin du sortilège. Alors elle attend qu'il rentre du travail pour lui parler. Comme elle s'y attendait, il nie tout en bloc.
Non, mais pas du tout, j'y comprends rien.
En lui disant qu'elle ne comprend rien.
Je comprends rien de toute façon.
Qu'il est actionnaire et pas technicien de bateau.
Je suis pas technicien de bateau.
Qu'il n'y est pour rien.
J'y suis pour rien.
Folle de rage, Ondine décide de venger son peuple. Alors, la nuit, elle trouve les clés du bureau, se faufile discrètement jusqu'à l'intérieur et prend des photos du dossier confidentiel. Cachées dans la salle de bain, elle les envoie immédiatement à Mediaport, avant de se diriger vers l'océan.
Avant de se jeter dans la mer, elle décide d'aller voir Janet, pour lui faire ses adieux. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le premier jour de la septième lune. Elle arrive précipitamment chez Janet, et à ce moment-là, de la bouche d'Ondine ne sort que la vérité. Elle lui raconte le sauvetage de son frère en mer, sa vie dans la mer, les One Siren Show, les discussions avec sa grand-mère, le grand pont et la négociation, le filtre et les sept lunes, jusqu'à l'écume. Et elle prend conscience, pour la première fois, de ce que le grand pont lui a pris.
Je crois que ce que je lui ai donné de plus précieux, c'est mon humour et mon rire magnifique.
Elle lui raconte aussi sa découverte terrible sur Total, le mariage qui n'aura pas lieu et son désir de partir au large.
Aucun son ne sort de la bouche de Janet. Elle est là, immobile. Ondine la secoue en criant.
Mais dis quelque chose !
Mais Janet ne dit rien. Ondine se tourne alors pour le plongeon final. Et à ce moment-là, Janet crie.
Attends, Ondine ! Ne pars pas. Je t'aime.
En entendant ces mots, la flamme du cœur d'Ondine remonte à sa gorge et se déploie en un rire incontrôlable et inconnu. C'était le rire de l'amour. Il dura de longues minutes. Il ruisselle sur son corps, resserrant ses jambes, faisant sortir des écailles, allongeant ses pieds et transformant ses jambes en nageoires jusqu'à lui redonner sa forme de sirène.
À ce moment, Janet tape une barre de ouf, car la phrase d'Ondine...
Il n'avait pas prévu ça, hein, le pont de la mer. Vieille homophobe, voleur d'âme, déconfie.
À ce moment, Janet tape une barre de ouf, car la phrase d'Ondine la fait hurler de rire et elle se transforme en sirène à son tour. Elles repartent dans la mer, nageoire contre nageoire, et se marrèrent longtemps.
Eh, t'as vu, les humains, hein, c'est vraiment... Je suis contente de t'amener chez moi.
Et en plus, ils bouffent du poisson.
Je vais te présenter ma grand-mère.
Ouais, stylé.
Et puis ma sœur.
Allez.
Je pense que je vais reprendre les spectacles.
Quelques lunes plus tard, au fond de l'océan, on entend Gérard Le Homard distribuer des tracts au petit matin un jour de marché.
This night, à 19h, le Two Siren Show, Ondine et Janet, les sirènes les plus drôles de l'océan.
Depuis ce jour, aucune sirène n'échangea son humour en échange de l'amour.
Bravo les loups lilous. On n'est pas habitué au direct, mais là je vous mets en direct, donc c'était hyper bien. Excellent, bravo. Très joli conte. On fait une petite conclusion de Bras Zéro Rire avant de mettre une chanson de ouf.
Bah, Bras Zéro Rire 2, voilà.
C'est fini, on s'est marré.
Des petits problèmes techniques, mais ça nous a fait rire aussi, quoi.
On fait le bilan calmement. On se remémore à chaque instant. Ouais, il y a eu des petits problèmes, il y a eu des petits bugs, mais on apprend.
Si ça marche, on fait un 3, quoi.
Ouais, on fait Bras Zéro Rire 3. Ouais. Vous voulez remercier des gens qui ne sont pas là? Blandine, par exemple.
Et Ludo aussi.
Et Ludo.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ouais.
Je vous mets une petite chanson.
Allez, vas-y.
Allez. C'est normal.
Bisous.
Bisous, bisous, au revoir.
Liana ?
Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
T'as pas entendu un truc bizarre ?
Si.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est Macron qui finit d'exploser tous les derniers droits qu'on avait encore un peu. Des fois, il y a raideur, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal.
Ah.
Et qui dit explosion, dit mouvement social. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure.
Ah, d'accord.
Quoi ?
Tu sens pas le brûler ?
Bah ouais, c'est normal, je t'ai expliqué. Il y a un mouvement social.
Ouais.
Et l'agitation sociétale due à ce mouvement social...
La quoi ?
L'agitation sociétale.
Ah oui, oui.
...provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Oui, oui, d'accord.
C'est alors ce qu'on appelle l'insurrection. C'est normal.
Ah.
Tu comprends ?
Oui, oui. Là, je voudrais savoir, toutes les banques sont en train de brûler, c'est bien ça ?
Mais oui, écoute. Les symboles du capitalisme morflent en premier avec les agences d'intérim et les forces de répression. Tu comprends ?
Ouais, ouais.
C'est normal, parce que de toute façon, les travailleurs et les travailleuses et les improductifs en ont gros sur la patate.
Ouais.
Alors le feu, c'est chouette et c'est efficace.
Ah ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'une révolution.
Ah, une révolution.
C'est normal.
Ah ouais, ouais, ouais.
Oui ?
D'accord.
Bon, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Tu te sens pas comme si on commençait à cramer, là, un peu ?
Écoute, écoute.
Oui.
Essaye de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens de la révolution ?
Ouais.
La destruction du capital par les flammes.
Ouais.
Bon, ça veut dire que pas mal de structures de domination ont disparu.
Ouais.
Et que nous sommes beaucoup moins contraintes.
Ah, ouais, ouais.
Or, une vie moins contrainte permet toutes les inventions et tous les changements. C'est ce qu'on appelle la révolution sociale. C'est normal.
Ah, ouais.
Mais oui.
Même le patriarcat.
C'est tout à fait normal.
C'est la révolution.
Voilà.